Nous sommes le 26 décembre, la digestion de la dinde farcie de Noël est terminée, et les enfants testent avec amusement l'ensemble de leurs jouets. Vous commencez à en avoir un petit peu marre de la sirène du nouveau camion de pompiers du petit dernier. Alors évidemment, il vous faut du réconfort, et cette année, c'est le géopolitique qui vous l'offre, avec sa rétrospective exceptionnelle de l'année 2023. En ce mardi, c'est le premier épisode, et quoi de mieux pour commencer que de discuter de l'enjeu principal de notre monde, le changement climatique. Notre chroniqueur Antoine s'en charge. Pendant un petit quart d'heure, il vous offre une synthèse des perspectives géopolitiques qu'il faut saisir autour du changement climatique. Je vous laisse sans plus tarder avec lui, il a plein de choses à vous raconter.
Bienvenue à tous dans ce numéro spécial où nous allons plonger au cœur d'un sujet brûlant. Littéralement, je suis ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui pour discuter de l'année 2023 qui s'annonce déjà comme l'une des années les plus chaudes de l'histoire moderne. Toutefois, si j'abandonne ma chronique pour un épisode, je vais garder la rigueur militaire et je vais vous présenter une rétrospective en deux parties, claire, carrée, afin que vous y voyez beaucoup plus clair sur ce sujet, même si je suis sûr que vous connaissez tous, vous qui nous écoutez plus ou moins le sujet. Je vais donc revenir sur le contexte, pourquoi cette rétrospective, les événements, bref, gardons un peu de surprise et de suspense. Et puis, dans une deuxième partie, je reviendrai plus sur l'aspect géopolitique de ce problème planétaire, parce que rappelons tout de même le nom de notre podcast, le géopolitique. Allez, c'est parti pour la chronique. Chaud devant, les enjeux géopolitiques du changement climatique, c'est maintenant. Une année 2023 des plus chaudes, une COP28 avec un accord sur les énergies fossiles et un triste record. Le record historique de consommation mondiale de charbon a été battu cette année. Vous le comprendrez donc, mais rien que ces dernières semaines, l'environnement, le changement climatique ou encore l'énergie ont occupé une place centrale dans le débat public et dans les journaux. Mais de manière générale, cette année qui s'achèvera bientôt aura laissé des traces et des séquelles importantes, tant sur la nature que sur les hommes avec un grand H. Commençons par examiner le contexte climatique global. Les scientifiques du monde entier sont unanimes. Le changement climatique est une réalité, ses effets sont de plus en plus perceptibles, visibles et nous impactent déjà plus ou moins fortement, il est vrai, mais tout de même, chacun de nous en ressent désormais les effets réels. En 2023, nous ressentons déjà, en fait, les conséquences de décennies d'émissions de gaz à effet de serre. Les températures records, les phénomènes météorologiques extrêmes et la fonte des glaces sont autant de signaux alarmants de l'urgence de la situation. Selon l'observatoire Copernicus, l'année est la plus chaude jamais mesurée sur les 9 premiers mois, atteignant une anomalie de 1,40 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Le volet le plus ambitieux de l'accord de Paris prévoyait, pour remettre les choses un peu dans leur contexte, un engagement pour maintenir le réchauffement sous 1,5 degrés Celsius. Or, en continuant comme tel, nous serions plutôt sur une tendance de 2,9 degrés Celsius d'ici la fin du siècle, avec les conséquences que vous connaissez ou que vous pouvez tout du moins imaginer. Zoomons un peu sur certains événements marquants de cette année. Les vagues de chaleur dévastatrices ont balayé diverses régions du globe, affectant les écosystèmes, la santé humaine, l'agriculture. Les incendies de forêt ont connu une intensité sans précédent au Canada, sur le pourtour méditerranéen, à Hawaï, engloutissant des hectares de forêt, libérant d'énormes quantités de CO2 dans l'atmosphère. Nous n'oublions pas non plus les inondations en Chine, en Slovénie. En France, les Pyrénées-Orientales connaissent actuellement un épisode de sécheresse important, avec même des restrictions d'eau. Les experts avertissent que ces phénomènes pourraient devenir la nouvelle norme si des mesures drastiques ne sont pas prises rapidement. Les écosystèmes du monde entier subissent donc des transformations rapides, parfois irréversibles et sur des temps géologiques tellement longs que difficilement imaginables. Aujourd'hui, même avec un ascétisme important et un bon coup de frein, il faudra tout de même attendre avant de revenir à une situation que l'on pourrait qualifier de normale, que je mets bien sûr entre guillemets, des gros de guillemets. Les espèces animales et végétales luttent pour s'adapter à ces conditions changeantes et certaines sont même menacées d'extinction. La biodiversité, essentielle à l'équilibre de notre planète, est mise à rude épreuve. Nous devons prendre conscience de l'importance de préserver cette diversité pour maintenir la stabilité écologique. Nos forêts, par exemple, sont en danger. Prenez l'Amazonie. Alors que les arbres sont d'importants puits de CO2, nous déboisons, nous mettons en place un phénomène de déforestation massif. L'empreinte carbone de l'homme est telle qu'elle excède les biocapacités. C'est-à-dire que nous émettons beaucoup et trop rapidement pour que nos émissions soient captées, par les arbres notamment. Nous sommes donc dans ce que Paul Crutzen, météorologue et chimiste de l'atmosphère néerlandais, nommé en 2002 l'Anthropocène. Nous sommes entrés, il y a désormais quelques années, décennies même en réalité, au début de la révolution industrielle, dans une ère géologique dans laquelle l'homme est devenu une force tellurique d'envergure. Dit plus simplement, nous avons par nos activités, nos modes de vie et autres, une force telle que nous sommes capables de modifier, perturber les équilibres biologiques, physiques de la planète Terre. Face à cette réalité, quelle action pouvons-nous entreprendre pour atténuer les effets du changement climatique ? Il est impératif de repenser notre manière de consommer. Peut-être pas en arrêtant de consommer certains produits ou aliments comme le préconisent certains, mais plutôt en privilégiant les circuits courts et locaux. Réduire notre empreinte carbone en privilégiant le vélo, en ville par exemple. Je vous l'accorde lorsque les infrastructures sont possibles, disponibles, et de promouvoir des sources d'énergie durables, décarbonées, le nucléaire, mais aussi l'éolien, le solaire également. Il faut trouver un équilibre, car la population est appelée à croître, et donc, je vais le dire un peu familièrement, mais des bouches seront naturellement à nourrir, et nous ne pouvons pas tomber dans les discours simplistes théologiques, mais nous devons rester à la fois pragmatiques, conscients et raisonnés. Les prophéties lugubres et les solutions utopiques qui y sont apportées ne sont donc pas des solutions pérennes eu égard à la démographie mondiale. Il faut en être conscient. Et en même temps, notre système actuel n'est sans doute pas totalement, et même pas totalement, définitivement, soutenable dans le temps. Il faut donc être à la fois conscient, sans tomber dans un pessimisme qui nous enfermerait. Telle est la ligne de crête sur laquelle doivent composer les politiques aujourd'hui. La France se fixe par exemple des objectifs à la fois nationaux, rénovation thermique des bâtiments, européens, neutralité carbone en 2050 ou le Green New Deal, mais aussi s'engage dans des traités internationaux comme les accords de Paris en 2015. Le problème, la question fondamentale, c'est est-ce que ces objectifs à la fois ambitieux et en même temps incontournables seront-ils soutenus, mis en place et à terme atteints au bon moment ? Je vous laisse réagir entre vous, débattre, car certains y croiront quand d'autres y verront de la poudre aux yeux, à vous de juger. Le changement climatique, pour entamer ma deuxième partie, a par ailleurs, et c'est mon second point, un impact géopolitique significatif en raison de ses multiples conséquences sur les ressources, les populations et les infrastructures. Le changement climatique est un phénomène global, pas de frontières, qui affecte l'ensemble des pays. Il pouvait sembler auparavant localisé, mais désormais l'ensemble des pays doivent y faire face. Alors il est vrai que certains pays sont davantage affectés, bien sûr, je pense au Bangladesh comme ça, mais il y aurait d'autres pays. Et je vais vous montrer, avec quelques raisons, pourquoi le changement climatique a des implications géopolitiques majeures. Tout d'abord, on va assister à une compétition pour les ressources. Les changements climatiques affectent la disponibilité des ressources naturelles, en particulier l'eau, la nourriture et puis les énergies fossiles que nous consommons beaucoup trop vite par rapport à la capacité de régénération de ces dernières. Et les régions qui subissent des sécheresses prolongées ou des modifications des précipitations peuvent être confrontées à des pénuries d'eau, ce qui peut entraîner des conflits locaux et régionaux pour l'accès à ces ressources vitales. On parle dans ce cas de l'eau de stress hydrique. Concernant ces ressources aussi, prenez l'exemple du gaz russe. Lorsqu'éclate la guerre en Ukraine, l'Europe panique, disons-le clairement. Et elle doit nouer une nouvelle diplomatie afin de compenser, on voit donc bien l'implication directe des ressources dans la géopolitique mondiale et notamment la diplomatie. Ensuite, migration et déplacement des populations sont des problèmes. Les phénomènes climatiques extrêmes, tels que les inondations, les tempêtes, la montée du niveau de la mer, peuvent forcer les populations à quitter leur foyer. Les migrations climatiques peuvent entraîner des tensions entre les populations déplacées et les communautés d'accueil, ainsi qu'entre les pays d'origine et les pays d'accueil. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qu'on nomme aussi HCR, a calculé qu'en moyenne, depuis 2008, 21,5 millions de personnes avaient été déplacées chaque année de force pour cause climatique. Ce chiffre pourrait considérablement augmenter. Les estimations vont de 260 millions de migrants climatiques en 2030 jusqu'à 1,2 milliard en 2050. Il faut donc être conscient que les frontières vont devenir des points névralgiques et de tensions fortes. Ensuite, la sécurité alimentaire. Les variations climatiques ont un impact direct sur la production alimentaire. Les modifications des régimes de pluie, vagues de chaleur et les événements météorologiques extrêmes peuvent réduire les rendements agricoles. Les pays dépendant fortement de l'agriculture peuvent faire face à des défis de sécurité alimentaire, ce qui peut avoir des implications ensuite sur la stabilité politique et sociale au niveau mondial. Nous sommes déjà face à un nombre conséquent de personnes qui subissent la famine et l'avenir semble pas radieux. Nourrir la planète deviendra donc là aussi un point de friction entre les pays qui seront relativement souverains et puis ceux qui sont complètement dépendants, tout du moins pour les produits de base. N'oublions pas non plus et gardons dans notre coin de la tête que chaque année le jour du dépassement avance dans l'année et que nous consommons plus que ce que nous produisons. Et c'est pas près de s'améliorer lorsqu'on regarde ne serait-ce que les départs en retraite des agriculteurs en France, sans repreneurs derrière, et que nous écoutons tous ceux qui jettent en pâture notre agriculture et qu'on contribue à son affaiblissement. Ensuite, impact sur les infrastructures critiques. Les événements climatiques extrêmes, tels que les ouragans et les inondations, peuvent endommager les infrastructures critiques, y compris les réseaux énergétiques, les ports, les routes, les aéroports. Ces dommages ont des répercussions économiques et peuvent également susciter des préoccupations en matière de sécurité nationale et de souveraineté pour les États. Ensuite, montée du niveau de la mer. La montée du niveau de la mer due à la fonte des glaces et à l'expansion thermique des océans menace les zones côtières. Les pays insulaires et les zones basses peuvent être particulièrement vulnérables, ce qui peut entraîner des revendications territoriales et des conflits liés à l'accès aux ressources marines. Et la guerre d'Arctique a déjà commencé grâce à la fonte de plus en plus prononcée de la banquise. Enfin, dernière conséquence, la stabilité politique. Les impacts du changement climatique peuvent exacerber les tensions existantes et contribuer à l'instabilité politique. Les gouvernements qui ne parviennent pas à répondre aux défis posés par le changement climatique peuvent faire face à des troubles sociaux, à des migrations massives et à des pressions internationales. On peut d'ores et déjà voir des tensions, des frictions entre dirigeants des pays du Nord et des pays du Sud. Et puis, de manière générale, comme a dit le sociologue et militant de la gauche franco-suisse Razmik Kecheyan, la nature est un champ de bataille. Les récentes mobilisations environnementales ont montré cette forme de radicalité. Notre-Dame-des-Landes, mais également à Sainte-Soline, avec un problème majeur quant à la sécurité intérieure. J'oublie jamais ma chronique. Terminons sur une note d'espoir. Bien que les défis soient immenses, l'humanité a montré par le passé sa capacité à s'adapter, à innover. Et si vous écoutez notre épisode exceptionnel avec Florence Cattiard, vous verrez qu'il faut faire confiance en l'entrepreneur et que des solutions concrètes sont possibles. Des initiatives prometteuses émergent dans le monde entier. Des technologies vertes, au mouvement citoyen en faveur du climat. Si nous agissons collectivement, avec détermination, nous pourrons inverser la tendance et œuvrer pour un avenir plus durable. Certes, un certain décalage, un schisme de réalité, disons-nous, semble persister entre ce qui se décide au sein des COP, comme lors de la dernière COP, la COP28, au sein de laquelle les dirigeants se sont mis d'accord à effectuer une transition hors des énergies fossiles et qui pousse certains à être pessimistes, et c'est vrai que cela peut être frustrant. Vous l'aurez donc compris, je ne voulais point d'une chronique dramatique au ton grave, parce que le contexte, la période actuelle, me semble déjà bien surchargé en informations angoissantes, et en plus on entre dans une période qui se veut joyeuse et féerique, donc il n'y a aucun intérêt à créer un climat anxieux. En revanche, cette rétrospective se veut comme une introduction au débat, car ce n'est pas ni en disant que nous irons coloniser Mars une fois que nous aurons exploité jusqu'à la dernière goutte ou miette notre planète, ni en disant qu'il faut enclencher le mouvement de la décroissance immédiatement et rompre avec un système immédiatement, que nous trouverons des solutions valables. En revanche, il est possible de trouver des solutions concrètes, réalistes, et faisons confiance au génie humain pour cela. N'oublions pas que le changement climatique est une responsabilité collective, et chaque action compte. Restons engagés, informés et motivés à travailler ensemble pour préserver notre planète. Merci et à bientôt.
Et oui, je sais, ce premier épisode de la rétrospective du géopolitique était brillantissime, je te remercie Antoine. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, ce n'est pas fini, l'ensemble de l'équipe du géopolitique s'est mobilisé et il y a encore 6 épisodes au programme qui vont sortir tous les deux jours jusqu'à la première semaine de 2024. Alors suivez-nous sur toutes les plateformes de streaming et sur Instagram, @legéopolitique, pour ne rien rater de cette série tout à fait exceptionnelle. Moi, de mon côté, bien, je vous retrouve dans deux jours pour vous présenter un nouvel épisode. Vous allez voir, c'est de la balle. En attendant, je remercie l'ensemble de l'équipe et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Jingle bells, jingle bells. Ah, ça m'a mis dans l'ambiance de Noël, moi, ce truc.